Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode un peu spécial car aujourd'hui je vais à la rencontre de Marie qui est spécialiste de l'aisance à l'oral. Marie qui était déjà avec moi dans un des épisodes, le vie d'étudiant numéro 7, et qui est de nouveau avec moi aujourd'hui pour parler un peu de son parcours et principalement du lien avec l'aisance à l'oral. Bonjour Marie, est-ce que tu veux juste rappeler un peu ton parcours?
Bonjour Antoine. Oui, alors moi j'ai eu une première vie professionnelle où j'ai fait différents types de métiers. J'ai beaucoup travaillé dans l'urbanisme et je me suis reconvertie dans l'accompagnement des jeunes des 15-25 ans à trois niveaux. J'ai un accompagnement sur l'orientation, une prépa pour intégrer Sciences Po Paris et justement je coach des élèves pour qu'ils améliorent leurs compétences à l'oral.
Bien, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur
Oh
l'aisance à
oui.
l'oral et déjà peut-être pourquoi c'est
Oui,
important?
bien sûr. Alors déjà, je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne travaille pas du tout assez au lycée. C'est vraiment, et en particulier par rapport à d'autres pays européens, je trouve que c'est vraiment, dans d'autres pays européens, on travaille beaucoup plus au lycée sur ses compétences à l'oral, on sait beaucoup mieux s'exprimer. Et moi, je pense que c'est vraiment un outil incontournable dans la vie professionnelle. En fait, ce serait indispensable de bien se préparer à ça au lycée, parce que dans la vie professionnelle, tu es amené à t'exprimer. Tu es amené à prendre des positions, à prendre la parole en réunion, dans beaucoup, beaucoup de métiers. Tu es quand même amené à discuter avec des clients. Voilà, c'est vraiment un incontournable. Et au-delà de ça, je trouve que c'est quand même un outil important. Au-delà de la vie professionnelle, c'est un outil pour véhiculer des idées, pour parler, exprimer, s'affirmer, convaincre. Et je trouve dommage que on ne le cultive pas assez, en tout cas dans le cadre scolaire.
Et je fais le parallèle avec notamment l'anglais, parce que je pense à l'anglais où en fait en France
Exactement.
on est quand même pas très bon. Et quand on regarde les PIAPI, en fait c'est beaucoup de l'écoute, de l'oral, alors que nous on est beaucoup sur de l'écrit
Mais en
à
fait, c'est
l'ancienne.
exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et comme tu le dis, dans d'autres pays, ils sont 1000 fois meilleurs que nous en anglais ou de manière plus générale dans les langues étrangères. Nous, on a vraiment des difficultés parce que les langues au lycée, on les apprend encore beaucoup à l'écrit. Donc, tu vois, moi, typiquement, j'ai vécu en Allemagne. J'ai vécu 3 ans en tant qu'étudiante. Et je savais faire une dissertation. J'étais étudiante en histoire. Je savais faire une dissertation, mais vraiment, genre, c'était construit, c'était bien écrit, etc. Et j'écrivais sur mon papier mon texte pour acheter une baguette de pain. Donc, tu vois, c'est complètement dingue. Et c'est vraiment à l'image de ce que je vois, moi, auprès des élèves que j'accompagne, quoi.
Oui, ou même, alors je prends l'exemple un peu plus fun, c'est ah ouais, mais j'ose pas appeler pour le coiffeur, ou
Exactement.
c'est tout bête, mais ça commence
Exactement.
par là.
Exactement, en fait, c'est quelque chose qu'on sent dans les études, mais qui est aussi tellement important dans la vie privée, parce que, ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi. C'est important aussi de pouvoir affirmer ses idées, de participer à un débat, de pouvoir, même pour des choses assez quotidiennes comme ce que tu viens de décrire, juste pas avoir peur, quoi.
Et au-delà de ça, arriver à capter l'attention, parce que c'est vrai qu'il y a parler, et parler avec un rythme, une rythmique, une manière de faire, de la gestuelle, ça c'est encore
Exactement.
un niveau au-dessus, mais pour vraiment poser ses idées, donner un message sur les mots importants, c'est assez important.
Exactement.
Toi qui es justement spécialiste dans ce domaine, comment tu fais pour améliorer justement l'aisance à l'oral? Est-ce que tu aurais des exemples concrets, des
Ouais,
petits exos, des
j'en ai
tips?
plein. En fait, j'en ai
Incroyable.
plein et j'adore que tu poses cette question parce qu'en fait, c'est justement le sujet, c'est qu'on peut s'améliorer. Parce que en fait, je pense que 90% des gens pensent que en fait, tu nais NAIT, bon orateur ou pas, et que c'est une compétence innée, et qu'en fait, ben non, mince, je suis nulle à l'oral, ça y est, c'est une fatalité, on n'en parle plus, et je vais essayer de composer à chaque fois faut que je parle à l'oral, mais c'est la catastrophe. Et en fait, non, vraiment, ça se travaille. Alors, le fond du sujet, c'est qu'il y a quand même un peu un sujet de confiance en soi. Il y a une question de gestion du stress, parce que c'est des moments où, en fait, on est exposé, on est complètement mis à nu, tu vois, il y a un truc, un peu, tu te sens un peu à poil, quoi, quand tu parles selon le format. Si tu fais un exposé devant ta classe et que tu es un peu impressionné, si tu passes une épreuve orale pour un concours, pareil, enfin, tu te sens un peu, tu vois que le regard des gens est sur toi, tu as peur de rougir, tu as peur de trembler, tu as peur de perdre tes mots. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de très inconfortable. Et donc, ça se travaille. En fait, donc pour le travailler, il y a des choses un peu de fond à faire qui prennent du temps et qui sont difficiles, mais il y a aussi des petits outils très concrets. Les choses de fond à travailler, ça va être vraiment la gestion du stress et la confiance en soi. Donc ça, tu te doutes bien que j'ai un certain nombre d'exercices, mais ça ne se règle pas en un claquement de doigts.
Ouais, et que, c'est normal, voilà. ça se pratique.
Exactement. Et en même temps, il y a quand même un truc de cercle vertueux. C'est-à-dire que à force de travailler l'oral, d'avoir des bonnes expériences, tu vois, et de que ça se passe bien, c'est aussi un levier pour améliorer ta confiance en toi et pour te dire « Ok, lors de la prochaine prise de parole, ça va le faire » et d'être de plus en plus à l'aise.
Donc, si je comprends bien, déjà, une des choses à régler, c'est la confiance en soi, avant même de parler de juste comment parler en public.
Oui, alors c'est sûr que c'est quelque chose... J'invite toujours les élèves que j'accompagne à travailler un peu là-dessus. C'est-à-dire, quand on avait fait un épisode tous les deux, on avait parlé de l'identification des talents. Ça peut par exemple beaucoup aider, de vraiment prendre conscience qu'on a aussi des forces, tu vois, des trucs dans lesquels on est vraiment très fort. Et voilà, par exemple, moi, avec mes élèves, je fais un petit tableau de la confiance, c'est-à-dire une sorte de... Tu sais, comme les mood boards, quoi, où en fait, on met un certain nombre de post-it et de trucs pour vraiment... prendre conscience en un clin d'œil que hey, ça va, je ne suis pas non plus, j'ai plein de compétences, il y a plein de trucs que je sais faire, etc. Mais après, je crois que ta question, c'était aussi trouver des choses un peu plus concrètes pour l'expression orale, etc. Et là, il y en a plein. Voilà, des petits outils, mais qui, franchement, sont puissants et fonctionnent bien.
Et là, si on avait genre un ou deux à nous partager.
Oui, bien sûr. Alors, j'ai par exemple les silences. Tu vois, une vraie difficulté dans les prises de parole en public, c'est que les gens parlent à toute blinde. Ils ne font pas de pause. Et du coup, c'est à la fois très dur pour l'auditeur de se concentrer et de comprendre, parce que les pauses, c'est aussi la respiration de l'auditeur. Et c'est aussi générateur de stress pour celui qui parle, parce qu'en fait, tu perds ta respiration, tu sais plus où respirer, etc. Donc concrètement, tu vois, moi, ce que je fais avec mes élèves, c'est qu'ils ont une petite boîte avec des stylos dans la boîte. Et ils m'expliquent leur truc. Et en fait, à la fin de chaque phrase, physiquement, ils me donnent un stylo. Et pendant le moment où ils me donnent le stylo, il ne faut pas qu'ils parlent. Et ça crée un silence obligatoire. Et donc, ils me déroulent, tu vois, par exemple, sur un format, un exposé, par exemple, d'un élève qui l'impressionne beaucoup. Je lui demande de travailler son texte en amont, bien sûr. Et puis, au moment où il doit faire son exposé, on fait une simulation ensemble. Et à la fin de chaque phrase... paf, il me donne un stylo à chaque fois en marquant un silence. On le fait comme ça 2-3 fois. Après, on vire les stylos et on reprend le même exercice. Et là, c'est assez dingue parce que tout à coup, les silences sont installés. Tu vois, le cerveau s'est aussi habitué à installer ces silences. Voilà.
Oui, parce qu'en plus, pour le cerveau, en fait, tu as le temps de réfléchir. Et je pense que ça enlève aussi beaucoup de «
Exactement.
Parce que souvent, on est « Ah, donc je vais parler, donc qu'est-ce que... Oui, donc ça... Voilà, donc je vais parler de ça, temps de pause, et aussi de ça. » Et en plus, le côté que tu dis, l'autre respire, mais en fait, intérieurement, tu respires aussi parce que tu as le temps de poser les choses.
Exactement. Et du coup, tu es beaucoup plus à l'aise si jamais il y a une question, parce que tu es moins dans quelque chose, tu vois, d'un peu... de trucs hyper stressés. Donc, si jamais il y a une question, tu as pris ton temps, tu as bien respiré, ton cerveau s'est aéré. Enfin, c'est vraiment un bon exercice pour gagner en sérénité. Mais il y en a vraiment plein d'autres. Tu vois, par exemple, une autre difficulté que je rencontre souvent avec mes élèves, c'est... en fait, ils parlent d'une voix un peu monocorde, comme ça, et puis c'est pas très facile de suivre un discours parce que, du coup, quand tu parles tout le temps comme ça, que tu mets pas le ton, c'est un peu... tu t'ennuies et tu perds tes auditeurs. Je sais pas si j'ai bien fait.
On vient de faire ton moyen de faire ça.
Voilà, donc là, t'as plusieurs façons de faire. Tu peux explorer ton volume sonore. Déjà, te rendre compte que tu peux parler plus fort. Donc moi, je les invite, tu vois, à imaginer qu'ils parlent à la personne qui est à l'autre bout de la pièce, à la personne qui est derrière le mur, à la personne qui est à l'étage au-dessus. Donc, ils les invitent, tu vois, à aller explorer un peu la palette de volume sonore qu'ils ont. Et puis, tu as d'autres choses que tu peux faire. Par exemple, jouer. Oui, c'est un vrai jeu d'acteur, finalement. Et jouer à quelqu'un qui tiendrait un étal sur un marché. Tu vois, un forain qui en fait des caisses pour vraiment, ou quelqu'un qui est au théâtre, comme tu l'imagines, et qui déclame son texte vraiment avec... Et donc, tu vois, c'est un peu comme pour le silence. L'idée dans les exercices, c'est d'aller forcer le truc corrigé un peu à l'extrême, Donc là, tu vois, on va déclamer un peu comme sur une scène de théâtre, un truc hyper magistral et tout, pour justement apporter de la couleur à ta voix, apporter de la modulation, etc. Donc pousser le truc à l'extrême pour après sortir de l'exercice et revenir à quelque chose d'un peu plus classique, mais où du coup, tu auras gagné cette empreinte.
Un petit reste, un petit... Oui, parce que vu que tu as amplifié, forcément, tout de suite, ça devient plus facile de juste faire le minimum
Exactement.
Qui est demandé, quoi.
Et je pense à un truc qui peut-être précède tout ce qu'on vient de se dire, avant même, tu vois, de réfléchir à ce que tu peux travailler pour t'améliorer. Moi, mon conseil numéro un, pratico-pratique, c'est vraiment de s'enregistrer, de se filmer. C'est pas agréable, on n'aime pas ça, mais tu vois, quand tu t'entraînes à, bah voilà, encore une fois, à ton épreuve orale ou à ton exposé ou à, tu simules un échange à l'oral, etc., tu te filmes et tu t'écoutes. Et donc, personne n'aime après, c'est hyper désagréable de se voir, on voit tous les défauts et tout, c'est une catastrophe. Mais ça te permet, en fait, de voir justement ce que tu peux améliorer. Parce que souvent, on n'en a pas conscience.
Oui, parce qu'en fait, on est dans le truc, en fait, on ne se rend pas compte qu'on ressent peut-être un piqui, qu'on est là, qu'on tire la gueule.
Exactement.
Parce qu'on n'a pas la joie, on ne met pas les formes, on ne met pas le...
Exactement. Et l'énergie. Comme tu es tellement souvent un peu dans un truc de gestion du stress, t'as pas, tu ne te rends pas compte que tu parles trop vite, que tu parles d'une voix monocorde, que tu parles trop doucement, ou comme tu disais, la posture, hyper important la posture. Donc là, c'est là que la vidéo intervient. Et là aussi, tu vois, il y a des exercices regard. Moi, j'ai été jury de concours pendant plusieurs années. Et en fait, il y a une erreur, mais vraiment hyper préjudiciable, tu vois, qui vraiment pose problème. Purée, regarder ses pieds, c'est la cata. Effectivement, pas regarder le jury, c'est vraiment, tu t'adresses à quelqu'un, donc tu lui envoies un message, donc il faut absolument la regarder. Et ça, c'est vraiment le pire du pire. Il y a un autre truc que beaucoup font, c'est par exemple, tu as trois examinateurs, ils n'en regardent qu'un. Et en fait, il n'y a rien de pire que pour vexer les deux autres, tu vois, ils ont l'impression qu'en fait, ben, ils ne sont pas pris en considération.
C'est des petits détails, en fait, tout de suite, ça te met...
Exactement.
Dans,
et après,
dur,
tu te fais saquer complètement. Donc, typiquement, si tu sais à l'avance combien de jurys tu vas avoir face à toi, tu mets trois petits post-it sur ton mur face à toi, tu te mets debout et tu distribues ta parole en distribuant ton regard. Tu regardes ton post-it numéro 1, tu fais ta première phase, tu regardes ton post-it numéro 2 et tu t'entraînes comme ça. Ça va être vraiment un bon levier justement pour être sûr que tu distribues bien ton regard.
Ah, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai que c'est pas évident parce que souvent on a envie de même regarder un peu de manière floue, je sais pas comment expliquer, mais on regarde un peu tout le monde en même temps sans trop regarder.
Exactement. En fait, tu veux fuir souvent la situation, tu vois.
Oui.
Donc du coup, tu regardes pas trop parce que t'as pas trop envie d'être là. C'est comme quand tu parles hyper vite, en fait. Je pense que il y a des articles assez sérieux qui ont montré qu'en fait, c'est aussi parce que t'as envie de te débarrasser de l'épreuve.
Oui.
Donc tu parles vite comme ça, mais bon,
plus
souvent
vite,
les épreuves, elles sont timées.
C'est débité plus vite.
Exactement.
Alors que des fois, en plus, tu as besoin de dire plus de choses parce qu'il faut combler le temps. Alors que si tu dis des fois juste peu de choses, concis et en prenant le temps,
Exactement.
C'est plus impactant.
Souvent, les épreuves, elles sont timées. Donc, il y a 20 minutes d'épreuve. Donc, si tu parles extrêmement vite, tu donnes la perche aux examinateurs pour qu'ils te posent encore plus de questions et potentiellement des questions auxquelles tu ne sais pas répondre. Donc, non, prendre son temps.
Ouais, parce que ça me rappelle un peu ma soutenance de mémoire, la dernière grande présentation avant de se dire c'est bon, c'est fini. Bon, après, il y en a encore d'autres pour le boulot, mais pour l'école, au moins, c'était fini. Et il y avait vraiment ce truc de se dire, en fait, quand même dans la présentation, bon, ça c'est en plus de l'oral, mais dans le PowerPoint, se dire, OK, qu'est-ce que je vais mettre d'important et aussi qu'est-ce que moi je vais dire et sur quoi je vais appuyer. Parce que ça aussi, en fait, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai envie qu'en face, ils retiennent.
Exactement.
Parce que c'est sur les quelques points qu'on va... Parce qu'ils ne vont pas tout retenir. 20 minutes, ils voient des centaines de candidats ou autres en présentation. Enfin, que ce soit un jury ou même une présentation comme moi, j'avais la soutenance. Mais ils ne vont pas tout retenir. Donc, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent? Quelles sont les trois idées? Et encore les marteler à la fin, et bien...
Exactement.
Le truc. La préparation, j'imagine.
Ça, c'est effectivement... En fait, effectivement, dans une préparation à l'oral, il y a un peu deux choses. Il y a le fond. Et il y a la forme. Donc la forme, on en a déjà pas mal parlé. Et là, tu viens de soulever le sujet du fond qui est essentiel parce qu'en fait, tu es là pour ça. Une prise de parole, c'est quand même l'essentiel. C'est de convaincre les gens qui t'écoutent et de véhiculer des idées et qu'elles soient entendues. Donc effectivement, il faut être hyper carré sur le fond. Et ça, c'est un exercice que je propose justement ce que tu disais à mes élèves, c'est-à-dire résume-moi en 3 idées principales et je veux qu'elles apparaissent dans ton déroulé. Il faut que ce soit hyper clair et il ne faut pas hésiter. Surtout, c'est un truc effectivement qu'on ne fait pas à l'écrit, mais qu'il faut faire à l'oral, c'est de se répéter.
Ouais.
Parce qu'en fait, à l'écrit, on estime que bah, tu as lu, c'est bon, tu as intégré, tu peux y revenir, tu vois, parce que c'est écrit. Mais à l'oral, les gens, en fait, souvent, ça va trop vite. Les gens ne captent pas toutes les informations. Donc, les infos principales, voilà, il ne faut pas hésiter à les marteler.
Ouais, par exemple, moi, je sais que j'avais fait... j'avais parlé, vu que je travaillais dans l'e-commerce, j'avais parlé de tout ce qui était... le parcours client, et je faisais toutes les étapes du parcours client, quels sont les freins qui pouvaient faire que le client sort du site. J'en avais retenu 6, et ce que j'avais fait, c'est qu'à la fin, j'avais vraiment fait une slide où j'avais rappelé les 6, j'ai dit, comme je vous l'expliquais, donc en fait, moi, ce que j'ai retenu, c'est ce qui est important, c'est qu'il y a les 6 freins, les 2-3 points importants pour chacun, et pas fini, mais bon, bien marteler encore un coup à la fin, quoi.
Et du coup, ça appelle, enfin, c'est aussi en lien avec la structure. Tu vois, la structure aussi, c'est hyper important, encore quasiment plus à l'oral qu'à l'écrit, avoir un discours hyper structuré où à la fois tu martèles les idées, tu y reviens, etc. Mais où, en fait, tu perds pas ton auditeur. Il comprend bien d'où est-ce que tu pars, où est-ce que tu vas, quelles sont les différentes étapes. Et ça, c'est du travail préparatoire. Donc, dans la mesure où, si c'est possible... que l'oral se prépare, parce que parfois, il y a un peu d'impro, hein, ça dépend de la nature de l'épreuve ou de l'oral, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'oraux qui peuvent se préparer. Structure et repérer les idées principales, c'est vraiment l'essentiel sur le fond.
Trop bien. Et même, tout ce qui est aidance à l'oral, je regardais un peu, même moi pour le podcast, c'est vrai que je regarde mes premiers épisodes.
Ouais.
Au début, je n'étais pas préparé. J'allais un peu au talent et en fait je me disais voilà j'avais besoin d'être préparé en fait et aussi plus je me préparais plus le fait de refaire un peu le truc maintenant en fait je peux carrément prendre un épisode sans être autant préparé qu'avant
oui.
Parce que justement en fait à force j'ai mon schéma et oui. Ce qui est aussi ce qui est aussi dur je trouve aussi à l'oral c'est quand il y a de l'interaction parce que faire juste du descendant là c'est la première étape. Mais quand tu dois être dans un mode interview ou quand tu es dans un mode où à tout moment quelqu'un peut t'interrompre et te poser une question, comment faire pour arriver justement à pas se perdre? Parce que souvent c'est ça, c'est que souvent on a un autre truc en tête, on va dire ok j'ai ça à dire, là quelqu'un nous coupe, paf, on perd tout parce qu'on n'est plus dedans. Comment est-ce qu'on fait?
Oui, ça c'est le pouvoir un peu de l'impro. Après je suis pas sûre que ce soit beaucoup le cas... Tu vois, pour des étudiants ou des lycéens, je pense pas que tu as beaucoup ce cas de figure. Par contre, tu peux avoir assez facilement, effectivement, une question qui intervient à un moment. Donc là, effectivement, il faut être en capacité de rebondir. Donc ça, c'est beaucoup de l'entraînement. Tu vois, moi, ce que je conseille sur un sujet, par exemple, tu vas lister avant plein de questions, toutes les questions que toi, tu poserais si tu étais le jury ou un participant. Et tu te les poses, en fait, et tu réfléchis pas forcément à la réponse en amont, mais tu te les poses pour justement voir un peu ta capacité à réagir, à rebondir, etc. Et en fait, c'est ce que tu disais toi-même, tu vois, c'est que c'est beaucoup de l'entraînement. C'est-à-dire que tu sens au fur et à mesure des épisodes, j'ai l'impression que voilà, tu gagnes en aisance, et donc faut pas hésiter à s'entraîner à faire ce genre de choses. Que ce soit dans un cadre, on peut aussi s'entraîner dans un cadre familial, avec des amis. Il y a des exercices d'impro qui sont très marrants. Tu vois, par exemple, tu as un truc qui s'appelle « un mot, une minute ». Donc, tu écris, par exemple, avec un ami ou avec un proche, tu écris une liste d'une vingtaine de mots. Tu mets tout ça dans un petit chapeau et tu tires au hasard. Et en fait, il y a un chrono qui se lance et pendant une minute... tu dois parler de ce mot-là. Et donc, tu racontes ce que tu veux. Mais si tu veux, ça peut être artichaut, ça peut être fenêtre, ça peut être piscine. C'est vraiment ce que tu veux. Mais voilà, ça te force à t'habituer à parler sur un sujet et à rebondir,
finalement. Ça me fait penser un peu à un exercice que j'avais fait au BAFA. C'était, on avait une impro à faire. Chacun devait avoir un personnage déjà. On devait discuter avec d'autres personnages en intervenant dans l'impro. Donc, c'était des roulements dans l'impro. Et en fait, des fois, on nous lançait un mot. C'est-à-dire que moi, je sais pas, moi, je vois un vieil homme sur le banc, quelqu'un d'autre qui arrivait, une dame qui poussait la poussette. Et en fait, on me disait, on devait interagir. Et là, on me disait tomate. Et donc, c'était à moi d'arriver, en même temps que je parlais, d'essayer d'introduire tomate dans le thème. Et ça aussi, ça a une manière de rebondir, j'imagine.
Exactement. En fait, c'est vraiment une gymnastique du cerveau. Donc, le pire qu'on puisse faire sur tous ces sujets-là, c'est de... bah, c'est d'éviter. C'est l'évitement, c'est la peur, c'est de se dire « Oh là là, ça me fait trop peur. » Donc, il y a un truc un peu où il faut affronter sa peur. Et pour progresser, il faut, faut s'y coller. Il faut y aller et se dire « Allez, j'ai envie de me poser ce défi et je suis sûre que je peux m'améliorer. » Et c'est un conseil vraiment que je donne, c'est que si vous voulez vous améliorer à l'oral, il faut prendre tous les prétextes possibles pour parler. Que ce soit dans le cadre familial, avec des amis, au lycée, pendant les études, on lève la main, on prend la parole, on n'hésite pas, on ne se censure pas, on y va. Et c'est vraiment le fait de s'y confronter, de s'exposer à ses peurs qui font qu'au bout d'un moment, ça va passer beaucoup plus facilement et on gagne vraiment en aisance.
Et donc toi qui disais qu'il fallait répéter pour impacter justement à l'oral, est-ce que tu pourrais résumer trois conseils, enfin les trois choses, est-ce que tu aurais trois conseils plutôt à donner pour améliorer son aisance
oui,
à l'oral?
Avec plaisir, ouais. Alors d'abord, ce que je viens de dire, vraiment ça c'est prendre la parole aussi souvent que possible, vraiment ne pas hésiter, parce qu'on ne peut pas être timide dans la vie et pas oser prendre la parole, jamais s'exprimer et puis tout à coup briller quand on fait un TED Talk. Enfin, en fait, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas possible. Deux, se préparer. En fait, c'est beaucoup de préparation, un oral. Beaucoup trop de gens pensent que c'est l'oral, donc ils vont y aller un peu à l'impro et que ça va passer. Il y a quand même beaucoup de préparation. La plupart des oraux se préparent. Tu sais à peu près sur quel sujet tu vas être interrogé, donc tu notes un certain nombre d'idées. Tu te prépares aussi sur la forme. Donc il y a vraiment un travail de répétition, de préparation sur l'oral plus précis. Et moi, ce que j'aime bien faire, ce que j'aime bien proposer à mes élèves, le troisième conseil, c'est de mettre en place une routine. Donc vraiment, tu vois, moi, avant une prise de parole en public, je propose vraiment de s'échauffer. Donc ça peut être un échauffement physique, par exemple. Moi, j'aime bien mettre une musique à fond. J'ai fait déjà des conférences devant vraiment des salles remplies, des amphis, etc. Je mets la musique à fond et je danse, tu vois, ça m'échauffe vraiment. J'échauffe la voix. Il y a un exercice tout simple, c'est de faire la vache, la bouche fermée. Donc tu fais et ça t'échauffe la voix. Non, mais ça marche assez bien parce qu'après la voix, au bout d'un moment, c'est la vache qui t'a fait rire, j'ai bien envie. Faire un petit exercice de visualisation. Tu vois, moi, j'aime bien faire une mini-méditation avant, un truc 5 minutes. Je mets le timer du téléphone et je respire calmement et je me visualise dans la prise de parole, dans un scénario où je cartonne, où ça se passe vraiment bien. Bon, je suis pas non plus... Il faut que ça reste réaliste, si tu veux. Je suis pas non plus... c'est pas une standing ovation sur un truc assez austère, un sujet de sciences politiques, par exemple. C'est pas crédible, donc je visualise pas ça. Mais je visualise un truc, donc les techniques de visualisation, concrètement, c'est tu fermes les yeux et t'imagines le déroulé vraiment de ce qui va se passer. Tu rentres dans la salle, tu t'assieds ou tu t'installes à ta place, tu dis bonjour, tu commences à dérouler ton truc. Donc vraiment, tu te projettes ton film de truc qui va se passer et tu le projettes de manière positive. C'est-à-dire vraiment, ok, et réaliste. Genre, ok, j'ai peur, mais je fais face, ok, ça se passe bien. Donc routine, échauffement physique, échauffement vocal et ma petite technique de visualisation, concentration. Et après, bam, on y va et on cartonne.
Trop bien. Et justement, pour finir l'épisode, est-ce que tu aurais une petite anecdote justement sur peut-être une anecdote, un truc que tu as vécu
Oui, et moi, figure-toi que j'étais incapable de prendre la parole en public. C'était une catastrophe et j'avais hyper peur. Et en fait, un jour, je me suis dit que c'était trop dommage. Et qu'en fait ça me bridait dans ma vie pro, ma vie perso et tout, que je manquais plein d'opportunités à cause de ça et que je fermais ma bouche en réunion pendant mes premières expériences professionnelles alors que j'avais l'impression que ce qui se disait n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt et pourtant j'osais pas parler pour des questions qu'on a évoquées hein, de peur, d'autocensure, du jugement des autres, etc. Et je crois que le levier ça a été de me dire qu'en fait le sujet c'est pas tant moi, mais mes idées. Et tu vois, de me dire, il faut aussi être un peu généreux. Tu vois, pour dépasser sa peur, c'est-à-dire, il faut aussi accepter de partager ce que tu as à donner et de me dire, allez, partage tes idées, ouvre-les, tu peux apporter un truc aux autres. Et ça m'a pas mal débloqué. Et après, ça a été un travail avec tous les exercices que je t'ai cités, etc. Mais comme quoi, je suis l'exemple que vraiment peut dépasser cette crainte. Et ces peurs, parce que j'ai vraiment fait des, Voilà, j'ai eu donné des cours devant des amphis entiers, sans notes. Enfin, il y a plus aucune peur, aucune gêne. Et donc, je suis vraiment la preuve vivante qu'on peut dépasser ça.
Trop bien. Bah, écoute, merci pour cette super anecdote pour conclure cet épisode sur l'aisance à l'oral.
Avec plaisir.
J'espère que ça vous a plu de parler justement de cette thématique un peu différente de d'habitude dans le podcast. Et on se revoit très vite. À très bientôt. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi, à ton frère, ta sœur, tes potes.
À tout le monde, quoi.